samedi 18 juillet. C'est le journal d'Hélène Philly. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous. Valse hésitation et finalement la taxe d'habitation sera bien supprimée pour tous d'ici à 2023. Jean Castex l'a confirmé hier soir. Le Premier ministre qui démine tous les dossiers chauds, les retraites, l'assurance chômage, tout cela remis à plus tard. Est-ce que ça suffit? On posera la question à votre invité Amélie à 8h20.
Oui, c'est Philippe Martinez, le patron de la CGT. Il sera à notre micro dans 20 minutes.
Dans ce journal, encore la vigilance face à l'épidémie de coronavirus en Bretagne, en Provence, la polémique autour du port du masque aux États-Unis encore, et puis les vacances, bison futé, voie rouge dans le sens des départs aujourd'hui.
France Inter.
Jean Castex referme donc la porte qu'Emmanuel Macron avait ouverte mardi. La taxe d'habitation disparaîtra bien, y compris pour les plus riches, au rythme où c'était prévu. Un premier tiers en 2021, un deuxième en 2022, le dernier en 2023. Le Premier ministre hier soir sur France 2.
La question a pu être évoquée de savoir si on décalait un peu dans le temps ce rythme. À ce jour, je vous réponds non. Donc, la suppression de la taxe d'habitation suivant le calendrier que vous avez indiqué sera maintenue.
Le Premier ministre temporise. On sentait bien la gêne au sein du gouvernement depuis l'interview présidentielle, Maxime Debs.
Décaler un peu pour les plus fortunés d'entre nous, la suppression de la taxe d'habitation pourrait être perçue comme légitime en période de crise, avait lâché mardi Emmanuel Macron dans son interview du 14 juillet. Deux jours plus tard, ici même sur France Inter, Bruno Le Maire déclarait donc qu'il allait regarder toutes les options. En définitive, il s'avère que la meilleure est de maintenir le calendrier, conclut un conseiller du gouvernement. La raison est, semble-t-il, avant tout constitutionnelle. Lors de sa campagne, le président candidat avait promis la suppression de la taxe d'habitation aux 80% des Français les plus modestes. Le Conseil constitutionnel l'avait alors rattrapé, pointant un risque d'atteinte au principe d'égalité devant l'impôt. C'est sous la pression des sages que la mesure avait été étendue aux 20% restants, ces Français dont le revenu pour un célibataire est supérieur à 2500 euros et dont une partie appartient à la classe moyenne. Reporter ce geste en leur direction aurait pu être perçu indirectement comme une augmentation d'impôt, dit-on au sein de l'exécutif. Là, en dépit de la crise, le geste est maintenu malgré son impact sur les recettes, chiffrées à 7,6 milliards d'euros sur 3 ans.
L'arme fiscale n'est pas le bon outil pour le Premier ministre qui ne pouvait que satisfaire les partenaires sociaux hier puisqu'il a renvoyé à plus tard les dossiers épineux. La réforme des retraites, on n'en reparle pas avant l'automne. L'assurance chômage, pas avant 2021. Même les changements de novembre dernier sont suspendus. Toute autre ambiance à Bruxelles. En tout cas, 7 heures de discussion les yeux dans les yeux hier sur le plan de relance à 750 milliards d'euros. Les Pays-Bas bloquent tout. Ils veulent un droit de veto sur l'octroi des fonds. Ils remontent tous sur le ring en fin de matinée.
À la une également ce matin, le taux de reproduction du coronavirus est en hausse dans plusieurs régions de France.
La Bretagne, la Provence, la situation n'est pas grave, mais nécessite plus de vigilance, reconnaît le Premier ministre, insistant sur le port du masque. Il sera obligatoire dans tous les lieux publics clos lundi. Dans les supermarchés aussi, les principales enseignes de la grande distribution l'ont annoncé hier soir. Les Français désormais sont équipés, mais tous ne gèrent pas encore la logistique qui y va avec. C'est le reportage à Lille d'Odile Senelard.
Arnaud a 31 ans et une organisation à toute épreuve pour s'y retrouver dans ses différents masques en tissu.
Comme j'en ai 5 à 6, j'en utilise un par jour et je les mets sur le côté. Et le week-end où je rentre, je lave tout. Comme je les confectionne par paquet de 6, je me dis il y en a pour 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc en fait, j'arrive à avoir un bon turnover dans les lavages.
Cela a beaucoup été dit. Quand les masques en tissu ont fait leur apparition, il est recommandé de les laver à 60 degrés. Sauf que dans les faits, eh bien, peu d'utilisateurs le font vraiment.
Alors celui-ci, je ne l'ai pas lavé cette semaine. Bon, c'est plus, je le mets au soleil et dès que j'ai besoin, je le reprends.
Pas facile non plus de respecter les règles pour les masques jetables, entre ceux qui s'accumulent au fond des sacs ou quelque part dans la maison.
J'avais un cimetière de masques usagés dans mon sac.
En fait, j'en ai trop. Et du coup, au bout d'un moment, je m'y perds lequel j'ai mis, lequel j'ai pas mis.
Et puis la façon dont on porte le masque, elle laisse aussi parfois à désirer. Cette pharmacienne lilloise doit faire de la pédagogie auprès de ses clients.
On a encore, hélas, très souvent le nez qui dépasse. C'est-à-dire que les gens ne protègent que la bouche et le menton. C'est la faute la plus fréquente, oui.
Les ventes de masques dans son officine avaient légèrement baissé ces derniers temps. Elles ont repris depuis le discours d'Emmanuel Macron annonçant le port du masque obligatoire.
Reportage France 15 bleu nord pour éviter la création d'éventuels nouveaux foyers. Une dizaine de préfectures, principalement dans le centre Val-de-Loire, ont par ailleurs décidé d'interdire les rave parties. Près de 5000 personnes s'étaient retrouvées dans la Nièvre le week-end dernier, prenant les autorités par surprise. Des masques et du gel avaient été distribués en catastrophe. Des bons aussi pour que les festivaliers puissent se faire dépister. Le masque politique est polémique toujours aux États-Unis. Le gouverneur républicain de l'État de Géorgie porte plainte contre la maire démocrate de sa capitale, Atlanta, pour avoir imposé à ses habitants de se couvrir le visage en public. Brian Kemp, le gouverneur, estime qu'il s'agit là d'un abus de pouvoir. Correspondance à New York, Loïc Glory.
Entre Brian Kemp et Kate Shalens-Bottoms, le bras de fer se réglera devant la justice. Le gouverneur, dans sa plainte, évoque des décrets nuls et inapplicables qui ne serviraient qu'à semer la confusion auprès du public, en particulier le port du masque obligatoire. Une décision qui intervient dans la foulée d'une visite de Donald Trump à Atlanta. Kate Shalens-Bottoms, elle-même malade du Covid, dénonce une démarche politique. Ce gouverneur utilise des fonds publics pour me poursuivre personnellement en justice. On va ajouter ça à la liste des choses étranges qui se seront produites en 2020. Mais en attendant, des gens meurent. Mais au-delà de l'affrontement Kemp-Bottoms, cette affaire est symptomatique de l'absence de réponse fédérale face au virus et d'une superposition de mesures à l'échelle des villes, comtés ou États. Le maire de Savannah, Van Johnson, s'inquiète des conséquences de la plainte de son gouverneur. On fait du mieux qu'on peut, 7 jours sur 7. Et aujourd'hui, non seulement on doit se battre contre le virus, mais il semblerait qu'on doive aussi se battre contre l'État. Ça n'a aucun sens. Et tout cela devrait être suivi en haut lieu, notamment par Joe Biden. Kate Shalens-Bottoms, dans la lumière, depuis bientôt 2 mois, est pressentie pour être sa colistière à la présidentielle. New York, Loïc Lory, France Inter.
Les États-Unis et la mort d'une figure, John Lewis, compagnon de route de Martin Luther King il y a plus de 50 ans, farouche opposant à Donald Trump aujourd'hui. L'Amérique pleure l'un des plus grands héros de son histoire, a réagi la présidente et démocrate de la Chambre des représentants. En France, une nouvelle marche aujourd'hui, organisée par les proches d'Adama Traoré à Beaumont-sur-Oise, 4 ans après sa mort, et alors que de nouvelles investigations ont été lancées.
Hélène, c'est les vacances et il y a déjà du monde hein, sur les routes ce matin.
Bison futé, voie rouge dans le sens des départs. Pensez aux pauses pour éviter de vous endormir au volant. Bientôt, il y aura une appli pour ça, développée par la start-up Core Technologies et le centre hospitalier de Lille. Elle est déjà testée par des routiers dans le Nord. On voit comment ça marche avec Sophie Morland.
Depuis maintenant 1 mois, Maxime Naraoui prend le volant équipé d'un brassard relié à son téléphone.
Donc j'allume le brassard, j'allume l'application et une fois lancé, je prends mon service.
Les premiers signes de somnolence sont détectés, les données transmises à son entreprise et le chauffeur routier ne s'en cache pas, il a déjà eu des surprises.
Moi je n'ai rien senti mais l'application dit que j'étais dans un état de micro-somnolence.
Le système qui analyse notamment les battements cardiaques détecte tous ces signes en amont, des informations précieuses pour son patron Benoît Méhez.
En fait nous ce qu'on connaît c'est les bâillements, l'étirement et où là en l'espace d'une seconde on a pu taper une voiture ou avoir un accident grave. Depuis cette nouvelle technologie, on est en mesure d'analyser et de prévoir des signes quasiment 20 minutes avant les premières phases de sommeil.
Bien sûr, cette alerte est très utile puisque le chauffeur sait automatiquement qu'il est temps de s'arrêter. Mais avant cela, il y a eu tout un travail d'analyse pour le transporteur. Nicolas Vera est le directeur général de Core.
C'est de dire comment déjà, moi je vais faire une photographie de mon entreprise et je vais voir comment je peux changer mon organisation pour minimiser les risques pour mes chauffeurs.
Et ce système devrait être très rapidement développé pour les particuliers. Les constructeurs automobiles seront bientôt contraints d'installer des capteurs.
En attendant, bonne route à tous et soyez prudents.
Et pour rester éveillé, on écoute France Inter. Évidemment. Et le journal d'Hélène Philly. Merci à vous Hélène, on passe au sport.